Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur un sujet d'actualité puisque il semblerait qu'on veuille nous coller dans nos campagnes partout des méthaniseurs agricoles. Il y a plusieurs projets qui sortent de terre dans notre département et partout ailleurs. Et pour éclairer finalement ce que sont ces méthaniseurs, à quoi ils servent, s'il y a du bon et du mauvais, je vais m'appuyer aujourd'hui sur une étude d'impact qui a précisément été faite sur le méthaniseur de la Capelle Livron et qui va éclairer largement le sujet. Alors, pour m'aider dans cette tâche à partir d'une étude d'impact, eh bien, j'ai tout bêtement invité l'un des rédacteurs de cette étude qui est en face de moi, Eric Van Daël. Bonjour Eric.
Bonjour Philippe.
Et voilà, et donc quelques questions pour démarrer avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, c'est quoi un méthaniseur agricole ?
Mais en fait, le principe même du méthaniseur, c'est de prendre de récolter du biogaz. Hein. Donc de prendre en entrée, donc on a des intrants qui sont généralement n'importe quoi, du fumier, du lisier, ça peut être des résidus de culture, ça peut être des cultures pour proprement parler, et qu'on va mettre dans un méthaniseur, et grâce à un processus qu'on appelle un processus anaérobique, dans le digesteur, nous allons pouvoir récolter du biogaz. Il y a aussi du CO2. Tout ce matériel qui rentrait dans ce digesteur pour faire ce gaz sera considéré après en sortie comme un digesta. Et ce digesta sera épandu dans les différentes parcelles, généralement des gens qui sont les porteurs de projets, donc ou disons tous les gens qui sont d'accord de pouvoir accepter du digesta sur leur terrain. Voilà.
Alors merci pour cette explication sur le méthaniseur agricole. Alors tu as réalisé, on l'a fait à deux en fait, une étude d'impact sur le méthaniseur de la Capelle Livron, mais logiquement, si la loi n'avait pas été modifiée, ça aurait été à ceux qui sont demandeurs de cette installation de le faire, et vous êtes senti obligé de le faire, parce que tout simplement, elle n'existe plus dans les textes, c'est bien ça ?
C'est ça, oui. Donc en fait, effectivement, depuis 2009, ils ne sont pas assujettis à réaliser une étude d'impact attachée à leur dossier de demande de ce projet.
D'accord, donc on a une étude d'impact véritablement indépendante sous les yeux, puisque finalement la loi n'impose plus à ce que le demandeur la réalise par lui-même. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, on entend des choses assez curieuses sur cette volonté politique de multiplier les méthaniseurs agricoles en France. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ça ? Est-ce que on entend parler d'indépendance ? Est-ce que c'est le cas ? D'où ça sort en fin de compte au niveau de la volonté politique européenne et française ?
Eh bien en fait, c'est une volonté donc de pouvoir produire notre gaz, c'est-à-dire en plus de ça considérer ça comme une énergie renouvelable. Et donc dans nos directives effectivement européennes et on va dire françaises aussi, de pouvoir, vu qu'on a des manques aujourd'hui de gaz, c'est de pouvoir créer son propre gaz en utilisant les méthaniseurs.
D'accord, donc une sorte de transfert finalement sur des importations de gaz. Tout en restant au niveau européen et pas français, c'est important de le dire, puisqu'il n'est pas question d'indépendance nationale et il n'est pas question non plus d'abandonner la privatisation de l'énergie, puisque Gaz de France a été privatisé, je crois que c'est en 2007, et donc on reste sur la logique du privé. C'est quand même important de le souligner, c'est bien ça ?
C'est ça, oui, tout à fait.
Voilà. Alors, tu as commencé à le dire, un méthaniseur, on nous vend ce produit, là, cette installation, comme ayant des qualités de bio, des qualités d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Est-ce que c'est vrai ?
Ben, aujourd'hui, il produit effectivement du biogaz, mais il ne produit pas que ça. Il produit de 40 à 45%, c'est ce qui est une estimation, hein, de gaz carbonique, de CO2, et qui va être dans le digesteur séparé. Hein, on va prendre d'un côté le biogaz, et bien sûr, de l'autre côté, il restera le CO2. Et ce CO2, ben, en fait, soit on peut effectivement le traiter, mais il y a un surcoût par rapport à ça, mais sinon, il repart directement dans l'atmosphère.
Donc, en fait, on produit, certes, du méthane qui, de toute façon, est un gaz combustible, qui, en sa phase d'utilisation, va produire du gaz à effet de serre, et on produit aussi du gaz carbonique qui, dans la plupart des méthaniseurs, dont celui de la Capelle Livron, n'est pas récupéré et renvoyé à l'atmosphère. Donc, la notion de bio là-dedans est un petit peu, même beaucoup, ambiguë. Alors j'en viens au méthaniseur agricole au niveau de son impact à proprement parler, au niveau du sens strict. On entend beaucoup parler des gens un petit peu dans tous les coins de France, de ceux qui sont passés à côté d'un méthaniseur agricole, de nuisances olfactives. Est-ce qu'il y a une réalité derrière ça ?
Alors effectivement, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est une réalité. On a suffisamment de preuves, de témoignages qui prouvent aujourd'hui qu'il y a une nuisance olfactive. C'est clair, c'est une évidence.
D'accord. Alors tout le monde ne dit pas ça, donc c'est pour ça que la question est posée. Et il y a aussi la question du bruit, puisqu'un méthaniseur, il y a quand même des machines tournantes, il y a des compresseurs de gaz, etc. Est-ce que cette notion du bruit pour le voisinage est également une réalité ou est-ce c'est une invention des tracteurs ?
Ah non, ça c'est quelque chose qui est effectivement une réalité. On a différents équipements, ça va de la tuyère aux pompes, aux différents instruments qui existent dans un méthaniseur qui font effectivement tout s'accumuler, produisent et génèrent du bruit. On a du bruit constant. Et on a parfois des pics particuliers. Quand par exemple une tuyère se met à dégazer, on a une augmentation de ce bruit.
Alors pour préciser les affaires, il y a même des seuils de niveau de bruit qui sont dans la réglementation. Tant au niveau de la clôture qu'au niveau des habitations avoisinantes. Et de l'expérience qu'on en a, je prends l'expérience du méthaniseur d'Espérou, qui ne sont pas respectés. Ça, c'est un autre volet que de l'installation de méthaniseur, c'est de faire respecter, on y viendra tout à l'heure, la réglementation, et ça devient bien difficile une fois qu'ils sont implantés.
Alors, juste pour l'arrêté du 2010, hein, qui fait aujourd'hui jurisprudence, je vais dire ça comme ça,
oui.
On a quand même 70 décibels le jour à la clôture, hein,
à respecter,
et 60 décibels la nuit. Donc ça donne à peu près un niveau sonore qui est relativement... Bon, c'est un bruit, hein, un bruit constant. Mais voilà, c'est ce qui est... Aujourd'hui, c'est ce que donne la norme.
Oui, alors 60 décibels, pour situer, c'est ce qu'on appelle le seuil maximum à ne pas dépenser pour le travail intellectuel. Voilà, ça c'est ce que dit l'INRS, maximum 60 décibels pour le travail intellectuel. Donc c'est quand même un fond sonore, disons, qui est quand même remarquable. Mais je viens de le dire, ce n'est pas respecté dans la plupart des méthaniseurs qui sont déjà en service. Alors, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, il y a un gros problème, puisqu'un méthaniseur ressort à 90% de ce qui est entré, c'est-à-dire les produits agricoles, le fumier, etc. On a un digestat dont il faut se débarrasser. Et sur un projet comme celui de la Capelle Livron, ça représente quand même 17 000 tonnes par an. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On nous dit que c'est bon pour les terres, si on l'épand sur les terres, qu'est-ce qu'il faut penser de ça ?
Alors bien sûr, on peut... Alors, effectivement, au départ, c'est clair qu'un digesta, c'est un fertilisant physico-chimique. On peut le considérer tel quel. Il y a des analyses qui prouvent effectivement qu'on a différentes situations. On peut considérer que c'est un neutre, ou ça c'est stimulant, ou on a des côtés négatifs. Nous, on a répertorié les risques qui sont liés en fait à ce digesta. Donc on a des risques à la fois sanitaires, hein, on a parfois aujourd'hui des pathogènes, on a des gènes, des choses qui ont été reconnues au travers de différentes études. On a des risques environnementaux, puisqu'on a des nitrates et des phosphores et des ammoniacs en nombre. On a aussi l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une surproduction de matière organique qui est surtout induite par l'azote qui est dans le produit et qui, en fait, résulte en une pollution, surtout des rivières. On peut avoir aussi des risques de fuite, des débordements, hein, c'est arrivé. Ça, c'est des choses qui sont recensées en termes d'accidents par rapport au digesta. Quand on a des fortes pluies, etc. Donc on a une sur... on va dire cette matière, elle n'est pas gardée dans des cuves. Elle est gardée dans des cuves. Mais en fait, on a parfois des risques que cette matière sorte des cuves et vienne faire une pollution. On a aussi les contaminants qui sont des métaux lourds, des pesticides ou des micropolluants. Ça, c'est des choses que l'on retrouve dans différentes études qui existent aujourd'hui. Et aussi, ce que l'on a, et ça, c'est des choses malheureusement que l'on n'a pas forcément considérées, c'est la partie biologique. La partie biologique des sols. Et là-dessus, en fait, on va dire que c'est un peu occulté. Parce qu'en fait, on a un impact. En fait, on va considérer que la matière que l'on va mettre sur les champs est une matière qui n'est pas vivante, en fait. Comme par exemple ce que les excréments des vaches que l'on peut considérer comme un compost, d'accord, et qui soit les vaches sont dans le pré et donc ça se retrouve dans les prés et on les garde à ce moment-là. Soit, en fait, on a cette matière qui est donc dans le digesta, qui est une matière froide, qui n'est pas du tout bonne pour tout ce qui est vie du sol, on va dire ça comme ça.
Alors, il y a une image, moi, c'est celle que je retiens, parce que je suis pas un technicien. Je retiens que les vers de terre n'aiment pas du tout le digesta, donc ils ont certainement de très bonnes raisons, et c'est toute la différence avec un fumier par exemple, où finalement on amène un apport de nature biologique, ce qui n'est pas le cas, matière vivante, ce qui n'est pas avec le digesta. Alors tu as commencé à le dire, il y a aussi de fortes inquiétudes en termes de pollution de la nappe phréatique.
Et surtout dans nos régions, parce qu'en fait, nous sommes sur des sols karstiques. Et donc, de par ce fait, c'est-à-dire qu'on a les infiltrations d'eau possibles. Et effectivement, dès qu'on met des matières sur ce type de sol, on a des risques de pollution d'eau. Il y a des cas, hein, aujourd'hui, qui sont même pas très loin de chez nous. Le gouffre de Padirac, en fait, on a fait, on va dire, une expérience, on va dire, négative. Et aujourd'hui, c'est ça le risque. On a des risques donc principaux de pollution rapide des eaux souterraines par le digesta qui est riche en azote, phosphore, potassium et aussi micropolluants.
Alors, je reviens toujours sur les conséquences, puisqu'on nous avait expliqué que ça changeait en rien le trafic routier, l'état des routes, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est pas du tout le cas et pourquoi la concentration d'une activité en un point donné pour des fermes et des terres qui sont dans un rayon, par exemple, de 10 km à la ronde, ça peut modifier considérablement l'état de nos routes.
Ben, je pense que c'est quelque chose qui est une évidence. Hein. Aujourd'hui, pour ce méthaniseur, par exemple, ce qu'on a prévu, c'était du 53 tonnes par jour pour les intrants, pour les digestats, enfin pour tout le trafic qui va être aussi induit par l'assistance, par tous les gens qui vont y aller, etc. Donc forcément, l'impact sur le routier sera évident.
Alors je passe volontairement sur le coût de l'immobilier, puisque là, on nous dit que c'est pas possible. Enfin, que ceux qui veulent habiter à côté d'une installation de méthanisation tout en étant à la campagne lèvent la main, ça va être compliqué. Et il y a un gros sujet également qui intervient dans ces installations de méthanisation qui vont être gérées par des agriculteurs qui vont être absents du site la plupart du temps. C'est tout simplement que ce sont quand même des installations classées qui fabriquent du gaz combustible par des gens qui, d'une part, ne sont pas là la plupart du temps, mais par des gens dont ce n'est pas le métier. Donc on se retrouve dans quelque chose d'assez extraordinaire. On va confier des installations dangereuses, c'est le terme exact, hein, des installations dangereuses, à des gens qui sont de bons professionnels de l'agriculture, sans doute, mais absolument pas pour la maîtrise des risques industriels. Donc ça, c'est un énorme point noir. En fin de compte, c'est d'aller au casse-pipe, tout simplement, puisque c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur la question des contrôles de ces installations une fois qu'elles sont en fonction ?
En fait, il y a principalement est basé sur l'autocontrôle. Les gens qui seront les gestionnaires de ce méthaniseur se devront de faire en fait une analyse régulière, de vérifier que leur exploitation est en accord avec la réglementation. Donc ils vont gérer ça au travers de documents, analyse du bruit, analyse des parcelles, épandages, etc., etc. Et on va dire une chose, c'est-à-dire qu'ils sont laissés libres de le faire. Par contre, derrière, nous, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a quand même des audits qui ont été réalisés, que ce soit en France ou même en Europe, qui montrent que malheureusement, on se retrouve avec des déviations quand même qui sont notables par rapport à ce qui est... par rapport à ce risque, hein, que risque industriel que tu évoquais, Philippe. Et donc sur chaque partie, on a vérifié que, par exemple sur les intrants, on a des problèmes qui sont liés à la gestion, la transparence, la traçabilité, la fraude. Pour ce qui est des feux, explosions, rejets toxiques, on a souvent des fuites, problèmes de brides, de raccords, des pièces qui sont attachées ensemble. Il y a des incendies, des risques d'explosion. On a aussi on a des problèmes de quantification des émissions de méthane dans les chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ben, on a des fuites. Hein. On ne garantit pas que le gaz est capté et n'est pas, enfin, que tout le système est étanche. Et aussi, ce que l'on a vu par rapport à des inspections périodiques, justement, qu'il y a des grosses déviations, que les gens ne font pas forcément ce qui était prévu qu'ils fassent. Voilà, c'est à peu près exactement ce que l'on a. Alors, ce qu'on retrouve beaucoup, donc, ce sont les fuites, les risques d'explosion et les problèmes qui sont liés à la documentation, on va dire la traçabilité. Voilà.
Donc il y a un gros souci derrière sur le contrôle. Alors l'autocontrôle, c'est quoi, puisque c'est un système d'autocontrôle qui est mis en place, c'est pas compliqué. Vous connaissez tous le contrôle technique pour votre bagnole. Eh bien, ça signifie que demain, si c'est pareil, vous faites le contrôle vous-même. Vous remplissez un bout de papier que vous avez fait le contrôle et finalement, c'est tout bon, puisque finalement, vous avez réalisé un autocontrôle. Donc, on voit bien qu'il y a une sacrée différence. de conception avec, entre l'autocontrôle et le contrôle qu'on connaît tous par un organisme agréé pour nos bagnoles. Alors, bon, c'était une image, mais elle est parlante de finalement ce système qui n'est absolument pas garant de notre sécurité. Alors, là, une des grandes questions sur ces installations de méthanisation, mais est-ce que c'est rentable ? C'est rentable pour qui ? Qui est-ce qui paye la facture ? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'importation de gaz naturel ? Qu'est-ce que ça vaut sur le plan économique pour les porteurs de projets eux-mêmes, mais aussi pour l'intérêt général, s'il y a une différence à payer par l'impôt, par exemple ?
Mais en fait, aujourd'hui, les porteurs de projets vont être aidés sur le plan de l'installation. Il y a différentes primes. Après, ce n'est pas forcément grandiloquent, mais ils sont aidés. On peut dire que ça peut représenter 10%, on va dire ça en moyenne. Et après, c'est sur le coût de rachat du gaz. C'est-à-dire que le coût du rachat du gaz, on peut l'estimer au jour d'aujourd'hui, sauf bien sûr si les règles peuvent changer. Hein, on n'est jamais victime, enfin, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Mais grosso modo, le prix du gaz est racheté à 75% de la valeur par l'État. Hein, donc c'est ça. C'est-à-dire que les primes qui sont données pour le rachat du gaz équivaut, on va dire, à 75% du prix tarifaire du gaz, quoi.
Alors, il y avait un rapport du Sénat adopté à l'unanimité qui disait que 4/5 du coût de production, 4/5, était en fin de compte payé par nos impôts. C'est-à-dire que c'est, non seulement c'est pas rentable pour la société, en tout cas, mais la grande majorité de ce que coûte la fabrication de gaz agricole, eh bien, c'est nos impôts qui paye la facture, donc c'est quand même assez extraordinaire, mais c'est quand même le système qui a été mis en place tel qu'il est. Alors, est-ce qu'on peut espérer des emplois avec ces méthaniseurs agricoles, puisque on n'entend pas beaucoup parler de création d'emplois de ces trucs-là, est-ce que ça crée des emplois ?
Alors, si on met dans la balance, effectivement, ce que ça pourrait créer, on imagine très bien que les gens, les porteurs de projet, enfin tous les associés sont partie prenante dans le projet. Donc en fait, il y a sur 24 heures et sur le temps qu'ils vont gérer le méthaniseur, 24 heures, 7 jours sur 7, etc. Bon, eux-mêmes feront des rotations, etc. Bon, après, on a appris aussi qu'il y avait eu une embauche. Donc c'est déjà quelqu'un qui est déjà physiquement là. Par contre, dans la balance, bien sûr, ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est les emplois qu'on peut perdre. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qu'on peut gagner d'un côté et qu'est-ce qu'on pourrait perdre de l'autre côté. Sachant que ce que l'on pourrait perdre est, on va dire, l'aspect du tourisme, grosso modo, qui peut avoir un impact. Et puis... Il y a quelque chose qui avait été évoqué, mais on a très peu parlé de ça dans l'étude. C'est les gens qui ont l'habitude, en fait, d'avoir du foin, par exemple, local, ne pourraient plus en avoir, par exemple, puisque ça partirait directement dans le méthaniseur. Donc voilà, je pense aux gens qui ont des brebis, des chevaux, qui font ça, voilà, comme une activité annexe.
Alors, en résumé sur l'emploi, il n'y a pas eu de balance emploi gagné, emploi perdu de fait. De grosses inquiétudes pour des régions comme les nôtres, où ce qu'on appelle le tourisme vert a quand même une grande importance. Alors, c'est vrai dans le secteur de la Capelle-Livron, mais c'est vrai en gros dans quasiment tout le département, quand on regarde le nombre de gîtes, ne serait-ce que ça. Et pour les emplois gagnés... au mieux un emploi, encore que celui qui nous est annoncé est déjà embauché depuis un an. Donc c'est quand même difficile de compter que ça fait plus un. Et au mieux le maintien d'emplois pour les fermes qui sont directement concernées par le projet. Alors, la question plus générale derrière tout ça, est-ce que les méthaniseurs, la méthanisation agricole, c'est-à-dire faire du gaz avec des produits agricoles, est-ce que globalement c'est une bonne chose pour les agriculteurs eux-mêmes, pour notre agriculture et pour nos besoins alimentaires ?
Ben, disons qu'en fait, principalement, les cultures partent dans le méthaniseur. Donc en fait, on se retrouve avec des terres agricoles mobilisées pour produire des éléments qui sont utilisés par le méthaniseur. On peut très bien après imaginer aussi un besoin d'importation au niveau de ces matières, possiblement.
Donc on va se retrouver à faire de l'agriculture pour nourrir la bête, à savoir les méthaniseurs, mais pas nécessairement pour... c'est un changement de boussole en quelque sorte. On fait plus de l'agriculture pour produire de l'alimentaire.
C'est ça, ouais. On...
Alors j'avais un chiffre qu'on nous a donné, hein, c'est que la traduction du plan des méthaniseurs en France en millions d'hectares de terres agricoles mobilisées, si le projet global du gouvernement tel qu'il est annoncé va à son terme, c'est 11 à 14 millions d'hectares de terres agricoles qui seraient mobilisées pour faire du gaz, en lieu et place, bien sûr, de faire de l'alimentaire. Donc ça inquiète, enfin en tout cas pas tout le monde, mais ça inquiète un certain nombre de gens sur à quoi doit servir notre agriculture. C'est bien ça ?
Oui, 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 bien sûr.
Voilà. Et puis, là, on a déjà des exemples très concrets. On l'a dans les Pyrénées, hein, avec des carences de foin, parce que le foin part dans les méthaniseurs, et des agriculteurs qui ont besoin de foin et qui réclament à en avoir. Donc, il y a un certain nombre de bouleversements là, qui commencent à s'opérer, où il faut faire particulièrement attention. Donc, peut-être... C'est une question que je pose. Peut-être qu'il faudrait s'interroger de la bonne façon, c'est-à-dire bien évidemment de proposer des revenus décents à nos agriculteurs et en même temps s'intéresser à la qualité de notre alimentation plutôt que d'aller vers cette fuite en avant qui, comme on vient de le dire rapidement, ne fonctionne que par l'hyper-subvention, puisque la très grande majorité du fonctionnement dépend des subventions, ce qui est assez aberrant quand on y réfléchit de près. Alors, pour terminer, je voulais demander à Eric, avez listé dans l'étude d'impact...
Oui, je voulais juste peut-être aborder un autre point qui en fait... Bon, qui interpelle quelque part, puisque le centre de national des méthaniseurs avait quand même évalué la durée de vie des méthaniseurs jusqu'à cessation. En fait, c'est une période relativement courte. Donc, eux, qui est de 8,5 ans, hein, 8 à 8 ans et demi. Et en fait, ils disent que globalement, ça, c'est un phénomène qui touche une quinzaine d'unités de méthanisation par an. Les risques sont multifactoriels et bien sûr, la cause principale, c'est les problèmes liés à la finance. Et les conséquences sont le rachat de ces méthaniseurs par des grands groupes, en fait, qui sont des groupes industriels, qui, eux, vont ouvrir la porte à tout type de changement de paradigme, hein, parce que tel que le méta des trois communes nous a été vendu, c'est que c'est en fait pour mettre dans le méthaniseur ce que eux produisent, mais après d'une fois que qu'un méthaniseur est revendu, on ne sait plus du tout comment les choses peuvent se passer.
Donc la question qui est posée, c'est la durée de vie réelle de ces méthaniseurs qui risquent c'est les statistiques déjà qui le disent, de se retrouver dans le paysage sans véritablement fonctionnement ou, de racheter, ou être racheté par des grands groupes industriels au bout de 8 ans, ce qui est quand même très peu. Et qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on les a sur les bras? C'est quand même une grande question.
Ben oui.
Alors, peut-être pour terminer, c'est le résultat de cette étude d'impact, puisque on y a passé quand même quelques centaines d'heures cet été à travailler dessus. Alors, on ne peut pas dire blanc ou noir, ce serait trop caricatural, mais sur la quinzaine de sujets qui ont été explorés, là, on en a cité quelques-uns sans être trop lourd, donc on n'a pas pu tout dire. Est-ce que on a en tendance des points positifs suffisamment forts pour justifier de l'installation de méthaniseurs agricoles?
Ben, ce qui ressort de l'analyse, guère trop, on va dire ça comme ça. C'est plutôt léger, on va dire. On n'est pas forcément dans une optique tout à fait positive.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des points, on a été très vite, est-ce qu'il y a des points où on est sûr que finalement c'est que du négatif? Je pense au voisinage, je pense à l'impôt, je pense au digesta, au risque industriel.
Oui, on n'en a pas parlé parce qu'on a voulu occulter le poids, mais la partie immobilière, bon, il est clair que même si on a des difficultés d'avoir des études aujourd'hui sur l'impact, les voisins proches du méthaniseur seront obligatoirement impactés, surtout dans notre région où il y a quand même une diversité de propositions de rachat de biens. Et donc ça sera quand même, je pense, très difficile pour ces gens-là. C'est une évidence.
D'accord. Donc,
on est surtout dans les impacts. Alors, c'est sûr que le bruit, ça va toucher les gens à proximité. Les parties olfactives, on va dire qu'en fonction des types de vent, d'autres personnes seront peut-être plus impactées d'un point de vue de distance. Mais on a surtout un grand domaine qui est pour moi très délicat au jour d'aujourd'hui, c'est en fait les sols, c'est le digesta, c'est comment on traite ce digesta. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a, même quand vous prenez des brochures pour vendre la méthanisation, ben c'est super le digesta, mais aujourd'hui quand on discute avec des experts, nous on a eu un expert dans la partie biologie, on a, nous, un autre ressenti. On a une perception qui est complètement différente. Et quand on sait aujourd'hui que prendre de la matière et l'épandre, c'est pas une matière noble comme par exemple des bouses de vache, etc., du lisier, ou le foin que nous on met chez nous pour protéger notre sol et puis enrichir notre sol. On est en fait avec des éléments qui sont dedans, et ça les études le prouvent, qui ont des matières plastiques, des pathogènes, des voilà. Et en fait, on commence à le mettre un peu partout. Après, c'est pareil, quand on les pend, parce que vu la quantité que l'on a, on a une zone d'épandage qui est énorme. Cette zone d'épandage, en fait, le risque après, c'est l'eau. On est sur des sols qui sont... qui permettent, on va dire, à l'eau de passer entre le sol de l'épandage jusqu'à la nappe phréatique, c'est un risque. Et aujourd'hui, on a même entendu que le maire de Quélus avait dit qu'effectivement la bonnette était polluée. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, de quoi, mais voilà, c'est une des conséquences.
Hein ? Alors, peut-être que tu peux nous dire, ça fait combien d'hectares d'épandage ? Un projet de méthaniseur comme celui de la Capelle Livron.
Je crois qu'on l'avait dit, non ? On avait dit plus de 1000 hectares.
1000 hectares pour un méthaniseur qu'on peut dire relativement standard en taille. Donc c'est énorme, 1000 hectares, puisqu'il faut se débarrasser de ces 17 000 tonnes par an de digesta. Donc ça concerne, disons, beaucoup de gens, et ça peut concerner des agriculteurs bien au-delà des propriétaires du méthaniseur à proprement parler.
Et là aussi, même dans le monde agricole, on a ces deux tendances, hein. C'est des gens qui sont tout à fait contre et des gens qui sont tout à fait pour. Voilà. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est un consensus. Et aujourd'hui, on sait très bien que les consensus sont très difficiles à obtenir. Donc voilà. Je voulais juste dire que nous, on a fait une étude d'impact, puisqu'en fait, sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui ont été évoquées et critiquées. Le principe même d'une étude d'impact, on a pris le temps de le faire. On a fait des recherches. On a pris du temps donc pour faire ces recherches. On a ciblé des études. Elles sont là. Tout est là. Et bien sûr, je veux dire, rien n'est figé. Tout est critiquable. Les gens sont à même de pouvoir amener leur pierre dans un sens comme dans un autre. Et nous-mêmes, Philippe et moi, nous avons dit que nous étions prêts à amender ce document. C'est un document qui existe à l'État aujourd'hui, qui a déjà été révisé deux fois. Et donc nous allons faire le nécessaire pour pouvoir le rendre encore plus robuste. Et bien sûr, les gens qui sont dans une démarche de dire non, on n'est pas d'accord avec vous, nous on est tout à fait ouverts et on veut capter ces informations de telle manière qu'elle soit reflétée dans notre étude d'impact. Voilà ce que je voulais dire en conclusion.
Donc la porte est ouverte.
Bien sûr.
La porte est ouverte, puisque là, on a quand même un énorme déficit, à part les slogans, évidemment, notamment, on a pris l'exemple du digesta, bon ou mauvais. Pour les sols dans la durée, déjà en soi, c'est un grand sujet, et il n'y a pas que ce sujet-là, évidemment.
Il y avait une autre chose, excuse-moi Philippe. Quand on a fini de préparer notre document, on l'a fait, on va dire, relire à certaines personnes qui étaient pas forcément dans le milieu, ou des gens qui étaient dans le domaine de la recherche ou des scientifiques, etc. Donc voilà. Et il y a juste, c'est une anecdote, mais en fait, le Conseil scientifique national de la méthanisation, on leur a filé la copie. Et eux, ils nous ont dit, mais ok, mais vous êtes trop gentils, parce qu'en fait, nous, on a fait une étude d'impact qui aujourd'hui est disponible, on peut la prendre, tout le monde peut la lire, qui, d'après leur dire, et c'est vrai que je l'ai lue, elle est énormément beaucoup plus robuste que la nôtre en termes de données, il y a un nombre de données incalculable, et ils sont certainement plus sévères que nous, sur ce processus de méthanisation.
Et de mémoire, ils nous ont contredit dans aucun chapitre.
Non, ils ont même presque dit qu'on était encore trop léger ou trop... Ouais.
Voilà, et donc pour ceux qui s'intéressent à poursuivre et à poser des questions sur c'est quoi un méthaniseur et l'intérêt... Pour la société, pour les agriculteurs eux-mêmes, et évidemment avec ces questions qui viennent derrière sur l'environnement, etc. Je voulais signaler la tenue d'une autre initiative qui va se tenir le jeudi 23 juillet à 17h30 au café associatif Le Boui-Boui du Pays, le long de l'Aveyron entre Fénerol et Lexos. Donc une conférence débat sur ce thème-là précisément, avec un certain nombre d'experts, une ingénieure agronome, un biologiste spécialiste des sols, etc. Pour précisément creuser encore le sujet et répondre aux questions, mais là sous forme de, comme je viens de le dire, sous conférence de conférence débat, jeudi 23 juillet à 17h30. On vous a presque tout dit, et donc si vous avez encore des questions, des interrogations, vous êtes les bienvenus ce 23 juillet. Voilà, j'ai plus qu'à...
Juste une dernière chose, parce qu'on peut retrouver cette étude d'impact ainsi que la présentation qui avait été faite de la restitution de cette étude que nous avions faite le 27 avril voilà, de cette année aux Granges du Lac. Et donc, en fait, ces deux documents sont consultables. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Et je pense que pour ceux qui ont Facebook sur le CLAM, enfin l'adresse CLAM donc, de Facebook, elles sont référencées. Et après, on peut les trouver un peu partout. On a mis des flyers, on a mis de la documentation là-dessus chez les commerçants.
Alors moi qui ne suis pas doué en informatique, j'ai réussi à la trouver. Donc, donc tout le monde devrait pouvoir y arriver. Eh bien, je remercie Eric de m'avoir aidé à tenir cette chronique et de ses explications.
Merci Philippe.
Et à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh,
ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.